Elles sont plus de 770 en France. Les radios associatives, c'est aussi 2850 salariés, dont 270 journalistes professionnels. Elles constituent le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public, c'est-à-dire Radio France. 750 radios associatives fonctionnent grâce au FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, un financement du ministère de la Culture qu'elles doivent redemander tous les ans. En moyenne, 40% des ressources des radios qui en bénéficient dépend du FSER et cette subvention représente plus de la moitié du budget de fonctionnement de près de 80% d'entre elles. À la lumière de ces chiffres, on comprend mieux, sûrement, la mobilisation des radios associatives en novembre 2024 à l'annonce par Rachida Dati d'une baisse de 30% des fonds globaux alloués à ce FSER. Ces radios associatives sont présentes donc sur tout le territoire métropolitain et ultramarin de France. Deux principaux syndicats, la Confédération nationale des radios associatives, le CNRA, et le Syndicat national des radios libres, le SNRL. Il existe également des fédérations de radios comme Radio Campus France ou la Ferraroc. Il existe également des fédérations régionales comme par exemple la Corlab dans l'ouest de la France. Qui travaille dans ces radios associatives? Qui sont les bénévoles de ces radios? Quelles sont leurs aspirations? Que mettent-ils et elles en place pour faire durer leur modèle associatif? Est-ce des radios militantes? Ont-ils un but politique? Comment sont-ils financés? Sont-ils des acteurs de territoire? Qu'entendent-ils par éducation populaire? Autant de questions auxquelles j'ai souhaité avoir les réponses de plusieurs membres de ces radios associatives. Je vous propose, dans cet épisode, de découvrir Timbre FM, une radio associative de l'Ouest, située à Augan, en Bretagne. Nous échangeons aujourd'hui avec Luc.
Timbre FM.
La radio, qu'on sait pas pourquoi.
Alors, au bout du micro, avec moi, c'est Loïc Lehir. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Loïc Lehir, responsable contenu d'antenne et communication à Timbre FM. Alors, peut-être que pour nos auditeurs, tu voudrais déjà nous éclairer où se trouve ta radio.
Alors, Timbre FM, c'est une radio associative basée à Augan, dans le 56, donc en Bretagne, dans le Morbihan. Alors, c'est un territoire qui a pas mal de radios associatives, déjà.
Oui.
Alors, nous, on est vraiment situé entre Ploermel et Guerre, quoi. Donc, en fait, c'est en gros entre Ploermel et Rennes. Voilà, si, pour être un peu plus spécifique. Alors, on est vraiment à côté de Brocéliande, quoi. Voilà, si ça peut parler aux gens. Merlin l'Enchanteur, tout ça, bah c'est chez nous. Quoi.
Et c'est un village où il y a combien d'habitants?
Alors, c'est un tout petit village de 1500 habitants. Donc, on est vraiment sur un territoire vraiment rural. Et on est un tout petit village, mais qui a en fait une dynamique un petit peu particulière, notamment parce qu'en 2009, donc, Timbre FM s'est monté en radio associative. Et la même année, on a le Champ Commun qui s'est monté aussi, qui est une coopérative de commerce de proximité en coopérative, en SIC, et du coup qui regroupe épicerie, café-concert, anciennement microbrasserie, auberge, et puis qui fait de la formation autour des montages de projets sous l'ESS, sous l'économie sociale et solidaire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui s'y passent et du coup, ça a créé une émulsion, tout ça, au sein du village. Au point qu'aujourd'hui, il y a aussi une librairie coopérative qui s'est montée juste en face de la radio. Donc voilà, il y a pas mal de projets comme ça qui rayonnent pas mal en fait sur le territoire, quoi. Vraiment rural et agricole, avec la particularité de l'agri-business, j'ai envie de dire, en Bretagne, quoi. Il y a une BD qui est sortie récemment, d'Inès Leroux, qui parle justement du du remembrement. Et à l'époque, effectivement, donc après la guerre en Bretagne, ça a été un peu le laboratoire de l'agriculture intensive, par exemple. Donc ça, effectivement, on est confronté à ça un petit peu tous les jours aussi, là où on habite, c'est là où on vit, quoi. Donc ça, forcément, c'est des thématiques qui vont revenir assez régulièrement sur nos ondes, par exemple.
Et c'est de dire aussi que la radio, finalement, elle a rapporté peut-être du dynamisme sur un territoire où, non pas qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas, il en manquait peut-être un peu.
Ouais, clairement, ouais, ouais. Alors nous, on est clairement dans une zone que la DRAC avait qualifiée de zone rouge en termes culturels et tout ça. Les choses ont un petit peu bougé depuis, hein. Ça c'était quoi, il y a une dizaine d'années. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'activité de Timbre FM a une incidence sur le territoire. C'est clair dans le sens où il y a ces ateliers, par exemple, mais au-delà de ça, et puis au-delà même de la radio pure, il y a des choses qui ont émergé de cette radio, et notamment, par exemple, il y a une émission dédiée au jeune public sur Timbre FM qui s'appelle Les Enfants Lalala, qui existe depuis 2014. Et de cette émission a découlé un festival, en fait. Donc il s'appelle le festival Les Enfants Lalala, qui a lieu normalement tous les deux ans sur le territoire, et ça se passe dans les médiathèques, c'est gratuit pour tout le monde, et puis c'est une proposition, une programmation culturelle en fait dans les médiathèques de qualité, quoi. Et donc ça c'est un exemple, c'est-à-dire que d'une émission de radio, eh bien on va développer tout un univers et puis toute une autre proposition culturelle qui n'a pour le coup plus rien à voir avec la radio, à part le fait que ça vient que ce festival existe à la base par cette émission, quoi. Mais sinon, bah, ça veut dire qu'on a développé plein de partenariats avec les médiathèques, avec les communes, machin, pour mettre ça en place, quoi. Et puis, avec toujours cette volonté que avec de l'accès gratuit pour tout le monde à la culture et tout ça. Ça, c'est un exemple. Et un deuxième exemple, c'est par exemple, on a un festival de BD qui s'est monté aussi par de la même manière. On avait une émission de bande dessinée sur Timbre FM, là, qui s'appelle La Bande FM. Et cette équipe-là, elle était aussi motivée pour monter autre chose qu'une émission de radio. Et du coup, depuis 5 ans, parce que là, on arrive sur l'édition 5, du coup on a un festival de bande dessinée qui s'est monté sur Rogan, quoi. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qui sont très concrets, en fait. Après il y a plein de choses qui le sont moins, mais en tout cas et là on pourrait parler des partenariats, des couvertures d'événements, des couvertures de festivals ou de choses un peu récurrentes sur le territoire, on est là, quoi. Une des particularités c'est ça aussi, c'est qu'en fait on fait partie d'une d'une sorte de fédération des radios associatives et locales de Bretagne qui s'appelle la CORLAB. C'est la coordination régionale des radios associatives et locales de Bretagne. Et donc ça a été monté par 15 radios. Donc voilà, il y a eu un gros travail commun entre les radios et tout ça, alors que on pourrait penser qu'on est des radios un peu sur le même territoire, donc on est c'est un peu les radios concurrentes, quoi. Sauf que, en fait, on est complémentaires et tout. Et du coup, on travaille depuis plusieurs années dans le cadre de cette CORLAB. Et le travail a porté ses fruits, puisque l'année d'avant, on a lancé Radio Boa, en fait, qui est une radio mutualisée. Qui diffuse sur l'ensemble de la Bretagne en DAB+, et du coup qui a son propre studio à Quimperlé, et donc ça a été monté par les 15 radios, donc il y a pas mal de programmes de nos radios qui remontent sur cette radio là et puis elle commence à créer ses propres programmes aussi, plutôt avec un aspect régional, quoi.
Donc ça veut dire quand même déjà que vous avez été suffisamment intelligent pour réussir à collaborer à 15, ce qui est quand même pas rien.
Non, c'est pas rien, ouais, effectivement.
Et ça veut dire qu'il y a des radios qui sont plus musicales, d'autres qui sont plus dans les ateliers, d'autres qui sont plus sur la production d'émissions dites éditoriales. Comment on fait tenir tout ça ensemble?
En fait, toutes les radios ont leurs particularités, mais chacune a ses propres émissions musicales, ses propres émissions culturelles. Chacune presque fait des ateliers pédagogiques aussi dans les collèges, les lycées et tout ça. Après, il y a des choses qu'on va coproduire ensemble, notamment l'Accord Lab trouve des financements et des partenaires, et en lien avec ça, va s'engager sur la production, je sais pas, de 50 épisodes autour de la biodiversité. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, par exemple. Et là, par exemple, ça va être toutes les radios qui vont produire cette émission. C'est-à-dire que chaque radio produisait des reportages sur son territoire avec des structures qui touchaient à la biodiversité et tout ça. Et tous ces reportages se retrouvaient chaque reportage se trouvait dans une émission qui ensuite invitait un expert. Et là, c'était une interview qui se faisait en studio à Radio Boa, par exemple. Mais par contre, tous les reportages étaient coproduits par les radios, c'est-à-dire que chaque radio produisait un ou plusieurs reportages en fonction de ce qu'il pouvait apporter sur le territoire. Donc ça, on a fait ça l'année dernière sur... donc c'était une émission qui s'appelait « Biodiversité en air ». Et puis, tous les ans, on part sur de nouveaux projets. Là, il y a eu une note de comptoir donc sur les cafés associatifs, cafés concerts et tout ça. Il n'y a eu plus d'excuses et place à traiter plus de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et tout ça. Et donc voilà, tous ces projets-là ont été financés. L'Accord Lab a réussi à trouver des partenaires et tout ça pour financer ces projets-là. Et par contre, c'est de la coproduction vraiment avec toutes les radios, quoi. Enfin, qui veulent bien le faire. Voilà. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que ça, c'est des choses qui vont alimenter justement cette nouvelle radio, ces émissions-là. Et puis après, c'est en fonction de ce qu'on a envie de nous de faire remonter sur cette radio-là. Donc on va pas mettre toutes nos émissions, mais on va en choisir, on va en sélectionner. Et donc chaque radio sélectionne une ou deux émissions musicales, une ou deux émissions culturelles, une ou deux émissions de reportage. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé la grille de programme.
Donc, ça veut dire qu'il y a un ruissellement quand il y a un fonds qui est obtenu pour créer des contenus. C'est-à-dire que chaque radio qui participe a le droit à un bout du gâteau.
Absolument, ouais, effectivement. Mm.
Et alors, si j'en crois votre site, vous êtes installé dans les anciennes postes, parce qu'on voit une photo.
Absolument. Et c'est pour ça que ça s'appelle Timbre FM. C'est que timbre comme le timbre poste, parce que on est vraiment dans l'ancienne poste du village. Et d'ailleurs, toutes les semaines, ça arrive encore que les gens viennent acheter des timbres, pour les gens de passage et tout. Souvent, ils s'arrêtent là parce que ça ressemble vraiment à la poste. Donc voilà.
C'est un clin d'œil amusant au service public aussi. Est-ce que vous êtes le service public?
Bah, en fait, ouais, moi je me considère un peu de. En tout cas, d'utilité publique, ouais. Enfin, pas moi, mais la radio, je la trouve d'utilité publique, clairement, ouais. Moi, mes fonctions au sein de la radio en tant que salarié, parce qu'on est quatre salariés, on est une équipe de quatre permanents. Donc moi, je m'occupe principalement de tout ce qui relève du contenu d'antenne. Et donc, ça va déjà se traduire par l'accompagnement des bénévoles, donc des habitants du coin, tout ça, à se former à l'outil radio. Et puis ensuite, ça va être l'accompagnement, ça va être d'aider quand il faut, de trouver des idées quand il faut aussi, et puis de valider ou non des propositions d'émissions ou de contenus qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est en lien avec une commission qui s'appelle la commission contenu d'antenne. Et donc, on valide ou non en groupe avec les bénévoles ce qui sera diffusé à l'antenne ou pas. En fonction des émissions qu'on nous propose un peu toute l'année, quoi. Je suis là depuis 2016. Donc j'ai rejoint un peu l'équipe timbrée. Alors c'est une équipe timbrée dans le sens qu'à la base c'est quand même une une volonté entre amis. C'était une bande de copains qui ont voulu monter une radio associative à l'initiative de l'actuel maire, qui est devenu maire par la suite, mais qui à la base travaillait pour RFI et montait des radios communautaires en Afrique. Et un jour, il s'est dit, je monte plein de radios en Afrique, mais il n'y en a pas chez moi, en milieu rural. Il y en avait une qui était pas très loin, mais sur le lieu même où lui vivait, il s'est dit, pourquoi pas monter une radio associative avec les copains. Donc c'est un peu parti de cette idée-là. Et du coup, on retrouve un peu tout cet esprit-là aussi depuis, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le monde est un peu au même niveau. D'un point de vue gouvernance, c'est vraiment particulier, puisqu'on est sur de la collégiale, en ce qui nous concerne. Et puis, on est vraiment ouvert. N'importe qui passe la porte et qui a envie de faire de la radio est le ou la bienvenue et on accompagne. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner au mieux ces personnes-là qui vont venir avec intérêt et curiosité, quoi.
D'ailleurs, une radio qui a 4 salariés, c'est quand même une belle radio, hein, parce qu'il y a beaucoup de radios associatives en France dont c'est pas le cas. Donc si vous souhaitez garder votre liberté éditoriale, comment vous financez ces postes? Comment fonctionne votre radio?
Alors, notre radio, elle fonctionne pour l'instant comme plein de radios, c'est-à-dire notamment avec déjà des subventions publiques, notamment l'État, avec le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, donc le FSER.
Le fameux.
Voilà, et donc ça, c'est une bonne partie du budget. Après, il y a d'autres subventions qui sont plutôt régionales, qui suivent un petit peu le FSER généralement. Et puis nous, on a en fonction des projets aussi, on est un peu soutenu aussi par la CAF, par la MSA, qui est une mutuelle agricole du coin, en territoire rural. Un peu de conseil départemental, vite fait. Et puis après, il y a le FDVA aussi, en termes de formation des bénévoles, tout ça. Voilà, donc ça, c'est pour la partie subvention. Et après, en termes d'autofinancement, déjà, les ateliers radio, pour nous, ça représente à peu près, je ne crois pas dire de bêtises, mais un bon 20%, je crois, de notre budget. Donc les ateliers, c'est l'autofinancement. On organise quelques événements aussi dans l'année. Donc ça, c'est, on fait ce qu'on appelle des timbres bar. Et puis tous les ans, on fait une fête de la radio aussi, quoi. Donc, soit de la radio en direct, en public, soit avec des concerts, soit avec des choses comme ça. C'est un peu l'événement de soutien tous les ans.
Est-ce que vous avez tous à peu près dans les mêmes âges à cette Timbre FM?
Ouais. On a la quarantaine, quoi, à peu près, dans les salariés. Après, dans les bénévoles, effectivement, ça va être aussi un peu les mêmes âges, donc 30-40. Tout le travail, il y a une partie du travail là en ce moment, c'est un chantier qu'on a, c'est justement d'essayer de rapatrier des plus jeunes, quoi, au sein de la radio. Et c'est pas tout le temps évident, mais on y arrive par certains biais. C'est aussi le fait de s'adapter aux nouvelles pratiques aussi des plus jeunes, tout en essayant de leur montrer que l'outil radio, c'est un vrai vecteur avec lequel ils peuvent s'exprimer, créer, tout ça. Même si ça, c'est quelque chose qu'on aborde au quotidien, vu qu'il y a une des salariées de la radio, donc Fanny, qui s'occupe, comme dans pas mal de radios associatives, de la partie, alors que certains appelleront l'éducation aux médias, nous on n'appelle pas ça comme ça, on appelle ça les ateliers radio, tout simplement. Elle est quasiment jamais là à la radio, elle est tout le temps en vadrouille dans les écoles, les collèges, les lycées, les structures sociales, les structures médico-sociales ou socio-culturelles, pour mener des ateliers radio, en fait, et faire de la création radiophonique dans toutes ces structures-là, quoi. Donc, c'est des choses qu'on essaie d'aborder, qu'on aborde, en fait, avec pas mal de publics jeunes, mais voilà, c'est des publics qui vivent leur vie ensuite rapidement, qui vont au lycée, qui vont à la fac, tout ça, donc qui quittent un peu le territoire aussi, donc on les récupère pas forcément ensuite, par la suite, à l'antenne, mais ça, c'est un travail qu'on essaye de mener, justement, de donner envie aussi aux plus jeunes, de s'investir dans ce genre d'assaut, parce que c'est avant tout une asso, avant d'être une radio, en fait, bizarrement.
Et voilà, parce que donc là, des gens, des quarantenaires, on va dire, c'est plutôt des jeunes parents, quoi, des personnes ouais. Actives. Donc, c'est-à-dire ouais. que si vous voulez des enfants, il va falloir peut-être attendre un peu que les vôtres soient plus grands.
C'est ça.
Donc, ouais. en fait, voilà, il y a un trou de génération entre vos enfants un peu trop petits et puis, bah, et puis vous, quoi. Donc là, c'est de capter l'entre-deux, peut-être.
Et les, ouais. Et puis, c'est en milieu rural. Et c'est vrai que tout de suite, ça implique... pour le déplacement, par exemple, des jeunes qui seraient motivés mais qui voudraient venir à la radio d'eux-mêmes et tout ça, c'est compliqué. Le transport en campagne, c'est un vrai problème aujourd'hui, quoi, en France. Je pense que les radios qui sont en ville ont peut-être moins de soucis à avoir des ados, des jeunes adultes qui viennent frapper à leur porte, quoi.
Pourquoi pas des outils numériques, par exemple Discord, ça permettrait de faire des émissions en live avec des jeunes qui peuvent pas venir forcément à telle heure, mais qui veulent participer avec l'idée de justement de pas être du podcast, c'est-à-dire à écouter hors grille, mais être vraiment en direct, mais sans être physiquement là. Après, est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas.
Bon, je pense que si ça leur parle, ça a forcément du sens, dans un sens... mais après, effectivement, c'est aux équipes de s'adapter à tous ces nouveaux outils-là, en fait, sachant que bah, on est quand même dans des logiques où il y a pas mal de chantiers en même temps, et ça, c'est vrai pour toutes les radios, notamment avec l'arrivée du DAB+, tout ça. On peut pas être sur tous les fronts à la fois.
Comment tu argumentes, justement, auprès de ces ados? Alors, les ados vont dire « Ouais, c'est toujours nous, c'est toujours notre faute, on est toujours incriminés et tout. » Comment tu... Enfin, en tout cas, comment tu expliques à ce public-là, même ça peut être des pré-ados, des plus jeunes, comment tu, ou des, disons, des étudiants, comment tu leur expliques c'est quoi une radio, en quoi c'est pertinent pour eux de venir? Qu'est-ce que tu leur dis?
Ben, que c'est... Déjà, c'est un outil qui risque de ne pas disparaître comparé à d'autres outils qu'ils ont peut-être déjà en main et compagnie. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, c'est sûr, même si ça prend d'autres formes et même si ça sera peut-être plus ouais par internet et compagnie, mais en tout cas c'est un outil d'expression qui est libre, et ça c'est pas rien, mine de rien, dans un monde comme aujourd'hui. Que aujourd'hui c'est quand même un des seuls médias qui reste anonyme et qui reste gratuit, en fait. Donc ça, c'est pas rien non plus. Et puis, bah, tout simplement, moi, je dirais que c'est un beau vecteur d'expression et d'alternative aussi, parce que je trouve que par rapport à d'autres médias, puis à des gros médias, c'est vrai que la radio, telle qu'on l'a fait nous, dans les radios associatives, bah, je trouve que ça laisse vraiment la parole à tout le monde et que chacun, n'importe qui a des choses à dire, peut le dire. Bon, après, bien sûr, on a des cadres, on a une convention avec l'ARCOM, mais cette convention, c'est voilà, tout ce qui tombe pas sous le coup de la loi est autorisé. Donc, en fait, donc ça reste quand même assez large. Pour donner envie, je dirais que si vous avez des choses à dire ou à partager, bah, en fait, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour faire de la radio, quoi. Et notamment partager de la musique, c'est souvent une des premières portes d'entrée. Et je trouve ça intéressant de pouvoir aussi mettre en avant des artistes, des musiciens, et d'en découvrir surtout, de pouvoir aller fouiner, puis passer des trucs qu'on n'entend pas sur les grosses radios, par exemple. Je trouve ça... Moi, gamin, ça aurait été un peu un rêve, quoi, parce que j'étais assez fan de trucs alternatifs, et en fait, quand j'écoutais les grosses radios, il n'y avait rien de tout ça, quoi. Donc je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, plus jeune, ça aurait été un vrai rêve d'avoir une fenêtre sur le monde comme ça, que je puisse utiliser et que je puisse arroser, en fait, les gens qui sont prêts à écouter cette radio-là, de musique qui sont alternatives et qui vont défricher des choses qui deviendront peut-être la norme dans 10-15 ans, quoi, ce qui arrive avec le hip-hop et tout ça. Donc voilà, c'est ce genre de truc que moi j'aime bien leur dire. Et puis après, plus que de dire, c'est plutôt de faire, en fait. Et là où un accompagnement tel qu'on va le faire avec n'importe quel bénévole qui veut faire de la radio, et donc ça fait partie, les jeunes en font partie, vu que dans notre statut associatif, on a intégré les mineurs. Les mineurs peuvent être adhérents à la radio et peuvent entrer dans les instances de la radio. Donc ça, c'est une réalité qu'on a mise en place aussi. Mais je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, c'est un vrai outil d'expression et de liberté, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important.
Donc des mineurs, mais je suppose tout de même avec l'accord parental, parce que les radios sont obligées quand même de faire signer aux parents des accords d'enregistrement et diffusion de voix, autant que pour les photos.
Absolument, absolument. Mais en tout cas, un ado ou un plus jeune même qui voudrait s'investir dans la radio pourrait le faire en prenant une adhésion, et surtout pourrait s'investir dans la vie associative de la radio et dans notamment sa gouvernance. Donc ça fait partie des choses qu'on aime rappeler, quoi. C'est qu'on laisse vraiment la place à tout le monde, peu importe l'âge, le sexe, la religion. Voilà, on est ouvert à tout le monde et tout le monde est bienvenu, quoi.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas le regard parfois un peu condescendant, et les gens n'en sont pas forcément conscients d'ailleurs, qu'on peut avoir envers des ados justement qui s'investissent de « Ah, oh, c'est trop mignon, oh, est-ce que tu peux me rappeler ton âge ?»
Non, bah non. En fait, on les côtoie tellement au quotidien aussi, ne serait-ce que par les ateliers qu'on fait dans les écoles, les collèges, les lycées, que du coup, effectivement, on n'a pas cette vision-là. On a plutôt une vision de travail avec eux, quoi. Une vision de création, d'imagination. Ça passe par l'artistique aussi, tout ça, quoi. Je trouve qu'il y a un côté artistique aussi dans la radio, parce que ça reste de la création sonore et tout ça. Et que du coup, par ce biais-là, en fait, on les côtoie un peu au quotidien. Et puis, du coup, on a une vision des plus jeunes, en fait, qui est propre à ce qu'ils nous montrent au quotidien, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire, ils ont les moyens de le faire, c'est juste qu'ils ont un peu, voilà, ils ont pas de bouteille, donc forcément ils ont besoin de petits cadres, ou en tout cas de petits outils clés pour pouvoir avancer, mais en tout cas ils ont plein de choses à proposer, quoi.
Vous écoutez quoi comme radio, les filles? Ah, d'accord.
Sur le combien? Ouais, le 106.6, c'est un bref FM.
Et si on explore encore votre site, alors là, on tombe sur les émissions. Alors j'en vois quelques-unes qui d'ailleurs se trouvent aussi dans la grille de Radio Campus. Hein, par exemple, coucou David Christoffel, je vois Méta Classique.
Ouais, Méta Classique, ouais.
Je vois le CNES, ça aussi, c'est chez nous. Et alors, je vois une émission que je crois qui vient de Tours aussi, Métamorphose Nocturne, enfin qui n'est pas diffusée à Campus, mais qui, à mon avis, vient de Tours.
Ouais, alors lui, il est sur Paris, Stéphane.
Oui.
Mais je crois qu'à un moment, ouais, il a dû commencer avec une radio à Tours, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça me dit quelque chose, effectivement.
Et alors, il y a plein d'émissions. Peut-être que tu veux justement nous dire, parce que tu parlais de l'équipe d'antenne, enfin, de la commission d'antenne qui est faite avec des bénévoles. Est-ce que tu veux faire un petit tour de vue de ce que vous proposez?
Alors, en fait, ce qu'on va proposer, c'est vraiment à l'image des gens qui s'investissent à un instant T de la radio, c'est-à-dire les bénévoles qui s'investissent. Et que ce soit pour les émissions créées vraiment par la radio, par les bénévoles de la radio, ou les émissions qui viennent de l'extérieur, parce que de toute façon, même les émissions qui viennent de l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, elles sont validées ou non par une équipe de bénévoles, la commission en fait une antenne. Donc ça reste un choix de bénévoles, un choix associatif, quoi, ce qu'on va diffuser à l'antenne. Les émissions qui sont produites à la radio, ça va de l'émission littéraire à l'émission musicale, en passant par un créneau de reportage où là on a des bénévoles qui font un peu de reportage toute l'année, qui vont aller rencontrer des gens, faire des portraits, tout ça. On a pas mal d'émissions culturelles, quoi. Et puis de territoire, forcément, où on va mettre en avant les acteurs du territoire, les associations, les collectifs, tout ça. Et puis parler des événements culturels, des événements sociaux aussi.
Pour parler un peu prétentieusement, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale qui se dégage de tout ça? Voilà, parce que je vois qu'il y a des choses. Moi, je triche parce que j'ai sous les yeux votre site. Donc, je vois qu'il y a quelque chose autour de la santé mentale aussi, par exemple.
Ouais, alors il y a pas mal de choses qui vont se construire en fonction des partenariats ou des rencontres qu'on fait aussi. Et notamment, bah, par exemple, le créneau qu'on a appelé Santé Mentale, mais qui va peut-être changer de nom parce qu'on trouve ça un peu pompeux. Mais en tout cas, là, on va y retrouver, par exemple, tout le travail qu'on a pu faire d'abord en atelier, puis en accompagnement, en autonomie, avec des groupes d'entraide mutuelle, par exemple, donc des GEM. Et donc, il y en a un à Renon, il y en a un à Pleu Hermel. Et en fait, c'est des gens qui sortent souvent de grosses sessions psy en hôpital et tout ça, qui sortent de là et qui ont besoin de partager des choses simples avec les gens et de monter des projets ensemble et tout ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle des GEM, des groupes d'entraide mutuelle. Et avec eux, par exemple, on a fait pas mal d'ateliers, pas mal d'accompagnements et d'émissions, du coup. Donc ça, c'est diffusé un peu là-dedans. Là-dedans, on va y mettre aussi une émission qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ?», qui a été portée par des psys du territoire et qui ont voulu faire une petite émission sympa, un peu sur le savoir-être, savoir-vivre, sur le bien-être, tout ça. Et donc, ça peut prendre plein de facettes comme ça. Mais c'est vrai qu'on a un lien, par exemple. Une des lignes éditoriales assez fortes qui va ressortir, c'est le lien avec les écoles du territoire. Parce qu'il y a deux émissions, il y a Sur le chemin de l'école, et donc, comme son nom l'indique, c'est pour accompagner les enfants sur le chemin de l'école. Et ça, c'est produit par les écoles du territoire. Qu'on a formé au fur et à mesure dans plein d'ateliers et tout ça, et qui se sont mobilisés en fait pour produire une fois par mois une émission comme ça qui va accompagner les... Donc chaque école produit sa propre émission, et puis du coup on a une palanquée d'émissions qui arrive tous les mois, quoi. Donc des choses comme ça. Comme Post Cartable, c'est une émission aussi qui, comme son nom l'indique, c'est plutôt la récré, quoi. Et ça, pareil, c'est produit par les écoles du territoire, et ça découle directement de ce qu'on avait mis en place pendant le confinement, où les profs voulaient garder un lien avec leurs élèves autre que les cours à distance, tout ça. Et du coup, ils ont monté une émission, les profs avaient monté une émission, pareil, des profs qu'on a formés, nous, de notre côté, avant ça, et ils ont profité de cet outil-là pour garder un vrai lien, en fait, avec leurs élèves. En leur faisant des petits trucs de gymnastique avec une musique, tout en leur disant là il est temps de bien respirer, prenez l'air, vous pouvez plus sortir, mais on est là, on pense à vous, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et de cette émission un petit peu particulière pendant le confinement, on en a fait découler une autre émission qui s'appelle Plus Cartable et qui continue en fait. C'est un peu la petite phase extrascolaire où les profs proposent plein de trucs avec les élèves, et puis voilà, donc c'est produit par les écoles, cette fois-ci plus par les profs, quoi. Donc ça, c'est marrant.
Et là, dans tous les exemples que tu nous as donnés, donc qui sont tous très intéressants, ça reste quand même des exemples de contenus plutôt éditoriaux. Donc ça veut dire que... Est-ce que vous faites aussi des choses plus musicales ?
Ouais. Plus musicales, on va avoir par exemple nous, quelque chose qu'on appelle la playlist timbrée. La playlist timbrée, ça va être un format d'une heure d'émission musicale, enfin de playlist musicale animée. Mais qui va être une vraie porte d'entrée pour les gens qui veulent s'essayer à faire de la radio, par exemple, parce que c'est un des trucs qu'on trouve les plus simples à faire, c'est présenter un morceau, un artiste qu'on aime bien, et puis comme ça monter une playlist d'une heure comme ça, une playlist qui sera animée. Et ça, par exemple, si vous allez écouter ça, parfois c'est des enfants, parfois c'est des adultes, parfois c'est... Et ça dépend de qui a passé la porte, et puis on a accompagné ces personnes-là, et ressortent avec une part d'émission. Voilà, c'est une vraie émission avec un début, une fin, tout ça, mais ça a été une porte d'entrée pour faire de la radio, quoi. Donc, par exemple, quand on reçoit des stagiaires de 3e, parce que il y a plein de structures qui reçoivent ces stagiaires-là, parce que là maintenant ils n'ont pas le choix que de trouver plusieurs stages dans l'année, donc. Et ben, on en reçoit tous les ans, et à chaque fois, ils font leur playlist timbrée. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses. C'est les premières portes d'entrée qui sont assez simples pour s'acclimater avec la radio, avec l'outil radio, avec le micro, la prise de parole, faire une sélection de morceaux, de zik, créer un ou deux jingles qui vont rentrer dedans. Enfin, voilà. Et donc, ça, c'est une de nos portes d'entrée les plus simples et qui marche bien. Les autres, ça va être l'agenda local et culturel, où là, on va préparer l'agenda local et d'un point de vue éditorial. Mais par contre, les gens vont pouvoir s'essayer facilement sur ce format qui ne dure pas plus de 10 minutes et où on relaie un petit peu toutes les infos, les infos d'événements culturels sur le territoire. Ça en fait partie. L'enregistrement des annonces, pour nous, ça en fait partie. On fait plein d'annonces. Il n'y a pas de pub sur Timbre FM, donc de pub commerciale. Ça c'est un choix aussi d'asso, mais par contre il y a beaucoup d'annonces culturelles, des cafés associatifs du coin, tout ça, et donc là pareil, ça peut être une belle porte d'entrée pour les gens qui veulent s'essayer à l'outil radio, ça va être d'enregistrer des annonces comme ça, quoi.
C'est un beau laboratoire en tout cas. Et est-ce qu'il y a outre cette émission, est-ce qu'il y a des playlists, c'est-à-dire des plages horaires où il n'y a que de la musique sur Timbre FM?
Oui, il y en a pas mal. Je ne les ai pas sous les yeux, mais il y a une commission programmation musicale qui jusqu'ici a beaucoup travaillé sur comment importer les morceaux en bonne qualité, tout ça.
Légalement. Et,
voilà, ça c'est des vrais enjeux, hein, mais où est-ce qu'on trouve la musique, comment on la ramène, tout ça. Il y a une grosse réflexion là-dessus, mais en même temps, cette commission-là a énormément alimenté. Donc, ils ont fait des énormes playlists. Et du coup, ça ne va pas être par style, ça va plutôt être par ambiance, en fait, chez nous. Mais je t'avoue que c'est un gros travail en chantier. C'est le genre de chantier qui peut ne jamais terminer. C'est ça qui est rigolo. Mais voilà, on a une commission aussi, vraiment, pour la programmation musicale. Là où on aimerait aller, c'est sur des choses sur lesquelles on n'a pas pris le temps pour l'instant. Notamment le lien, les partenariats avec les labels indépendants et tout ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. On aimerait aussi beaucoup plus répondre aux gens quand ils nous envoient leurs morceaux et tout ça. C'est vrai que ça, c'est la partie qui passe un peu à la trappe par rapport à tout le reste, en fait.
En tout cas, si on va sur votre site, on trouve le détail de votre grille d'antenne et en effet, il y a des belles plages musicales à écouter. Et donc, dans ces playlists-là, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce que c'est des artistes locaux? Est-ce que c'est juste c'est les bénévoles qui aiment bien tel artiste? Est-ce que c'est des choses qu'on peut entendre sur des radios commerciales? Est-ce qu'il y a des choses interdites?
Non, il n'y a pas de choses interdites, mais c'est pareil, je pense que ça... Tu parlais de ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est un gros travail, dans le sens où, pour moi, ça reste un gros chantier. C'est-à-dire qu'on a mis quelques trucs noir sur blanc, mais c'est pas... c'est pas forcément révélateur de ce qu'on voudrait vraiment mettre en avant, en tout cas à l'écrit. Et la musique en fait partie. C'est vrai que nous, la musique, on considère que c'est notre rôle un petit peu justement d'être aussi un laboratoire de diffusion de musique qu'on n'entend pas forcément partout. Donc nous, on aime les musiques alternatives, on aime les musiques du monde, on aime les musiques locales, effectivement. Maintenant, dans la playlist en elle-même, on va retrouver un petit peu un mélange de tout ça, mais avec des plages qui vont être plus en avant, le rock un peu hardcore, et puis à d'autres moments, ça va plutôt être un gros mélange de musique soul, hip-hop, tout ça. Et puis en même temps, on est dans un bled qui fait tous les ans la fête de l'accordéon, donc forcément, on s'est dit, on va quand même mettre une plage accordéon. Enfin, voilà. Tout ça, ça se réfléchit un peu au quotidien, mais en tout cas, c'est alimenté par... Alors oui, il y a quand même beaucoup de choses indépendantes dans ce qu'on diffuse, mais en fonction des bénévoles qui s'impliquent et qui veulent passer tel ou tel truc, des fois, on aura des choses un peu plus populaires, des choses un peu plus mainstream à certains moments, mais le fond est quand même de défricher quand même des... ouais, des pépites, quoi. Donc, on va aller taper aussi bien dans les gros trucs obscurs indépendants que dans des choses un peu plus grosses. Mais en tout cas, ça reste, pour moi, ça reste quand même, et c'est important que ça reste, truc de niche, quoi, un petit peu quand même, quoi. Même si, au quotidien, quand tu écoutes la radio, il y a un côté entraînant, il y a un côté, tu peux facilement trouver des morceaux qui te parlent en fonction de ce que tu aimes. Mais par contre, on garde la vigilance quand même de se dire, c'est important de mettre les musiciens locaux en avant, c'est important de mettre les groupes indépendants en avant, mais voilà, après c'est comment faire, à quel moment, comment, toutes ces questions-là on se les pose un peu tout le temps au quotidien, et on n'a pas forcément beaucoup de temps pour y répondre à ces questions-là. Voilà.
Mais ça veut dire que vous ne vous donnez pas forcément un rôle peu de prescripteur musical?
Non, pas pour l'instant.
Bonjour, vous êtes en direct sur la future radio ghanaise Timbre FM et nous nous apprêtons, Henri-Georges, François et moi, Nadine, à interroger la bibliothécaire de notre belle bibliothèque municipale.
Alors, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et puis nous dire ce que vous faites à la bibliothèque?
Alors, je m'appelle Marie-Charlotte Morin, je suis bénévole à la bibliothèque. Disons, de temps en temps, il y a du monde, de temps en temps, il n'y a personne, ce qui est dommage.
Eh bien, je constate aussi que, alors que votre fondateur, enfin en tout cas, disons pas le fondateur, mais le maire qui a impulsé Radio FM a travaillé avec RFI, je ne vois pas les flash info RFI dans votre grille.
Ouais, non, c'est vrai. Pendant longtemps, on s'est dit, ah, ce serait bien. Et puis alors, je ne sais plus pourquoi. Je crois qu'il y avait une histoire de timing, de récupérer le flux, c'était compliqué à un moment. Et puis depuis, c'est pas revenu à la charge. Tu fais très bien de le soulever parce que ça fait partie des choses sur lesquelles devrait travailler la prochaine réunion continentale de la commission continentale, par exemple. Et effectivement, on n'a pas d'actualité, on n'a pas d'infos.
En plus, c'est gratuit.
Et c'est gratuit, ouais, en plus. Et quand c'est gratuit, il faut en prendre plein.
Non, pas forcément, mais c'est gratuit, c'est intéressant, et puis ça donne, disons, un autre éclairage sur l'actualité.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est revenu, dans les discussions, c'est revenu beaucoup de fois au cours de ces 10 dernières années, de diffuser le journal de RFI. Ouais. Mais là, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas allé jusqu'au bout.
Bah, ce sera peut-être un prochain épisode. Parfois, ça fait hérisser certaines personnes et ça fait peur de parler de médias militants, mais est-ce que tu considères que Timbre FM, c'est une radio militante?
Je ne l'appellerai pas comme ça, mais c'est de toute façon une forme de militantisme que de s'investir dans une association, je trouve. Et par ce fait, moi, ça me paraît logique. En tout cas, pour les radios associatives aujourd'hui, de ne pas avoir peur de porter un peu cette étiquette de militantisme, quoi. Parce que on se rend compte quand même qu'on est, qu'on est une alternative parmi d'autres, mais que le prisme un peu des médias d'une manière globale, il se réduit au fur et à mesure. Et on voit bien que, voilà, la plupart des gros médias et des médias même tout court sont quand même détenus par les grosses puissances financières de notre pays. Donc je trouve quand même qu'on est une forme d'alternative à ça et par la force des choses, parce qu'on est aussi ouvert à tout le monde en fait, et que du coup pour une fois c'est pas les mêmes qu'on entend. Donc forcément, par la force des choses, les gens qui s'impliquent dans cette association, dans la nôtre en tout cas, ont quand même une forme de militantisme en nous, de toute façon, c'est clair. Sans dire qu'on est de gauche, clairement, mais la plupart des gens qui s'investissent dans ce type d'asso et dans ce type de radio associatif, clairement, sont souvent des gens de gauche, quoi. Faut pas se leurrer.
Après, je poursuis ma question, c'est de dire souvent à partir du moment où une radio ou un média se dit militant, se qualifie de, groupes de militants en face, on peut trouver le fait que c'est un discours biaisé, c'est justement un repère de gauchistes, donc c'est des gens pas sérieux qui vont donner des fausses informations, ou en tout cas des informations biaisées, partisanes, et que finalement, est-ce que c'est bien sérieux de leur confier des ateliers donc, que vous appelez ateliers radio, mais que beaucoup appellent éducation aux médias? Du coup, est-ce que c'est bien une bonne idée d'aller confier des ateliers d'éducation aux médias à des radios associatives? Non pas que je défende ce point de vue, mais en tout cas, on l'entend.
Alors, on l'entend, ouais. Moi, ce que j'aurais à leur répondre, c'est aller demander aux gens avec qui on travaille, quoi. Aller demander aux structures avec qui on travaille comment ça se passe. Et puis, vous aurez votre réponse, en fait. Voilà. Bon, en fait, les gens qui disent ça, j'ai pas trop grand chose à leur dire, en fait. C'est juste, venez voir. Venez passer la porte de la radio, venez voir comment ça fonctionne. Et puis, si ça vous intéresse, faites-en, tiens. Faites un peu de radio avec nous, quoi. C'est tout ce que j'aurais à répondre. Parce que, les polémiques et tout, on est un petit peu habitué à ce genre de trucs, mais. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est le résultat, et c'est du contenu d'antenne qui est fait par des gamins tout seuls, quasiment, qui deviennent autonomes. Et nous, on n'est pas, on va pas se dire militant. On va pas dire que Thomas FM, c'est une radio militante, mais en tout cas, c'est une radio d'éducation populaire, clairement. Et rien que par ce biais-là, c'est une forme de militantisme, en fait. C'est la manière de faire, en fait, qui est militante. Donc après, est-ce que c'est une bonne idée de nous laisser les clés et de nous laisser aller montrer ça aux enfants? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas c'est vital, quoi, parce qu'on voit ce que ça donne, et puis c'est surtout que je pense que l'éducation populaire, ça fait partie des choses qui sont dans le viseur des ultralibéraux, des gens qui n'aiment pas trop la liberté d'expression dans le sens respectueuse des autres et tout ça. Donc, moi, ça ne me pose pas de souci de me faire traiter de militant dans ces cas-là, clairement, quoi.
D'ailleurs, vous avez un poste dédié à ces ateliers radio, hein. Oui, tu le disais, ouais, tout à l'heure, que tu as une collègue qui est par Mons et par Vaud, qui emmène la radio partout. Hein? Donc finalement, ça veut dire que ce que vous proposez, ça fait écho chez plein de structures.
Oui, et puis si ça posait souci, on ferait plus appel à nous, en fait. Mais c'est pas le cas. Au contraire, on a même du mal à boucler l'année et à faire entrer tous les projets qui se dessinent, en fait, tous les ans, quoi. Donc ça veut dire que ça fonctionne, et donc ça veut dire que qu'il y a de la demande, et puis que surtout il y a une expertise qui est validée un petit peu aussi, quoi.
Donc une expertise.
On est là sans être des journalistes, parce que c'est peut-être ça un peu la différence aussi. Et c'est souvent, même ça, on a du mal à le faire comprendre aux élus un peu et tout. C'est que en fait, on est un média, mais il n'y a pas de journaliste, en fait, dans ce média. Donc en fait, on n'est pas, en tant que salarié, on n'est pas là pour être là sur tous les événements sportifs du coin, machin, pour faire du West France et tout ça, quoi. On est là pour accompagner les gens à faire de la radio. Donc en fait, des gens qui voudraient faire du journalisme et tout ça sont les bienvenus. Mais c'est juste que nous, en tant que salariés, on ne fait pas de quotidienne ou quoi que ce soit, en fait, à l'antenne. Alors moi, je fais quelques émissions qui mettent en avant les acteurs du territoire, les associations et tout ça. Donc j'en fais deux par semaine, tout ça. Mais voilà, je suis pas journaliste. Et donc, ça c'est quelque chose aussi qu'on aime bien redire et mettre en avant. Nous, on est là pour vous donner les clés de la radio et vous accompagner pour vous structurer et être autonome le plus possible pour utiliser cet outil-là, quoi.
Pourquoi ce serait grave, d'ailleurs, que vous ne soyez pas journaliste ?
C'est pas grave, mais en fait, en soi, c'est vrai que nous, on a... par exemple, ça ne se passe pas très bien entre nous et la communauté de communes, par exemple. Bon, ils ont une manière de faire qui est un petit peu opaque et tout dans leurs décisions et tout. Et je sais qu'on n'est pas très copains, mais par exemple, on a eu plusieurs fois, oui, mais vous demandez des sous de fonctionnement, mais nous, on vous voit jamais quand on fait des conférences de presse et machin. Enfin, ils en font trois par mois. Et clairement, on n'a pas. C'est pas notre vocation, quoi. Donc, et on a du mal à leur faire comprendre que, on n'est pas journaliste, en fait. Donc, en soi, c'est pas grave, on le vit bien, mais des fois, il y a une sorte d'incompréhension du fait que ce soit un média, en fait, tout simplement. Les gens ont une vision des médias, en fait. Et sauf que, nous, c'est pas comme ça qu'on pratique ce média-là, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas même une confusion entre journaliste et chargé de com à cette échelle-là ?
Ah peut-être, mais ça c'est clairement leur problème. Enfin,
oui.
Je vois bien ce que tu veux dire. Souvent, les élus, quand ils allouent des subventions et tout ça, ils aiment bien avoir des petites contreparties. Nous, c'est pas notre délire, en fait, quoi. Tout comme, on pourrait faire... Il y a plein de petites choses comme ça qui, pour le coup, sont un petit peu politiques, c'est vrai. Mais en fait, qui, pour nous, coulent de source, quoi. Si nous donnent des sous pour faire des choses sur le territoire, c'est nous qui choisissons ce qu'on va faire et ce qu'on va aller couvrir. Et voilà. Maintenant, si ça leur pose problème, qu'ils ne veulent pas nous donner, ils ne nous donnent pas. Puis c'est déjà arrivé. Hein. C'est-à-dire, on s'est fait diminuer nos subventions. Les deux radios associatives du territoire, nous et Plume FM, une année comme ça, ils ont décidé qu'il fallait faire des coupes budgétaires sur des trucs et c'est les deux radios compris dans la tronche, quoi. Voilà, c'est leur manière de faire. Et puis, on fait sans eux, c'est pas grave. On fait autrement.
Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, les annonces sur la réduction, le rabotage du FSER, donc qui a priori n'aura pas lieu, mais comment vous aviez réagi ?
Je pense que comme tout le monde, on s'est dit, de toute façon, vu l'état politique du pays, ça nous pendait un peu au nez.
Certes.
On a flippé un petit peu, comme tout le monde. Enfin, c'est des emplois qui peuvent sauter facilement. Maintenant, justement, on est en train de réfléchir aussi à comment diversifier aussi nos manières de faire et peut-être nos manières de se financer aussi. Donc, forcément, il va y avoir dans les prochains mois, prochaines années, il va y avoir des réflexions là-dedans dans notre CAC. Alors nous, c'est un CA en fait en collégial, donc on l'appelle le CAC, c'est le Comité d'animation collégiale. C'est pas un conseil d'administration. Donc il y a 9 personnes dedans, de 9 bénévoles, et donc voilà, qui traitent questions décisionnaires un petit peu tous les mois. Donc, je pense que ces questions-là, elles sont déjà sous-jacentes depuis quelques temps, mais je pense qu'il va falloir rentrer dans le dur rapidement et trouver d'autres solutions de financement en fait, que de dépendre de l'État et d'être à la merci en fait d'ultra-libéraux là, qui se font un malin plaisir de couper ce genre de subventions quand ils pourront. Et puis, quand on voit, tu vois, juste à côté de chez nous, il y a la région Loire-Atlantique qui a pris super cher là, avec Morancet, qui a coupé toutes les subventions régionales, quasiment culturelle, sociale, sportive, enfin voilà, ça a été une hécatombe là. Je pense peut-être que vous avez vu passer ça de l'autre côté. On n'est pas à l'abri de tomber sur un ou des tarés comme ça qui arrive à la tête de grosses structures publiques comme ça et qui décident de faire n'importe quoi. Ouais, je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Et puis voilà, il y en a beaucoup qui commencent à s'inspirer des États-Unis aussi. Je pense que voilà, on n'est vraiment pas à l'abri. Donc comment faire derrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, faut se poser la question et faut essayer un maximum d'aller vers l'autofinancement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. C'est clair.
Et c'est là qu'on voit l'importance de la CoreLab aussi.
Ouais. Parce que du coup, l'idée aussi de cette fédération-là, en tout cas de ce collectif-là, qui est aussi en collégial, c'est aussi d'avoir un poids, c'est sûr. L'accord là va porter nos drapeaux de nombreuses reprises au niveau des élus, au niveau des structures institutionnelles, pour porter une seule voix aussi. Et ouais, je pense que se fédérer comme ça, c'est pas nouveau, hein, c'est rien de nouveau. Mais je pense que de se fédérer comme on peut dans, sur notre territoire, en circuit court, et, bah ouais, ça a un vrai intérêt, ça c'est clair.
Ben merci à toi, alors Loïc Le Hir, responsable d'antenne et communication, du contenu d'antenne, pardon, sur Timbre FM en Bretagne.
Ça y est, on fait de la radio. Vous êtes sur Timbre FM et vous entendez mes mots. Après tout, ce n'est que cela une radio. Une boîte de laquelle sortent des mots, prononcés par quelqu'un à l'intention de ceux qui ont décidé que l'intention était pour eux.
Merci à Luc et au maire de la commune d'Augan pour ces échanges au sujet de leur projet radio. Je vous invite à suivre Timbre FM sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur leur site qui sera bientôt remis à neuf.